Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce débat qui va permettre d'entendre les acteurs de la pauvreté. Alors au cours de cet événement, nous allons évoquer la question de l'accès aux droits des personnes en situation de pauvreté ou en d'autres termes, nous allons voir comment la pauvreté est une violation des droits de l'homme. Avec mes premiers invités, nous débattrons des obligations des États. Ensuite, je vous proposerai d'écouter des acteurs qui ont décidé de prendre les choses en main et de penser des projets novateurs pour lutter contre la pauvreté. Et enfin, nous donnerons la parole aux associations genevoises pour évoquer la pauvreté à Genève. Avec nous pour cette première partie du débat, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Natacha Foucard. Vous êtes chef de section développement durable humain au Haut Commissariat aux droits de l'homme. Monsieur François Rivasseau, ambassadeur et représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à Genève. Et Madame Jeannette Nelson, vice-présidente d'ATD Quart Monde. Un grand merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus attendre, je vous propose d'écouter Philippe Alston. Il est le rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en juin dernier, au moment où il présentait son rapport devant le Conseil des droits de l'homme. Et dans ce premier extrait, Philippe Alston explique pourquoi il faut que les États changent leur approche de la pauvreté.
Le plus grand problème avec les approches à pauvreté est que beaucoup de gens pensent que les gens qui vivent en pauvreté sont coupables eux-mêmes. Ce n'est pas la faute de la communauté, ce n'est pas la faute des politiques gouvernementales. Mais c'est la faute de ces gens qui sont paresseux, qui ne sont pas disposés à travailler, etc. Si on insiste qu'il y a un droit à sécurité sociale, à protection sociale, présente le défi dans un cadre différent. C'est une responsabilité du gouvernement de faire les étapes nécessaires pour faciliter que les gens peuvent améliorer leur situation.
Alors, Natacha Foucard, je me tourne vers vous. Vous travaillez au Haut Commissariat aux droits de l'homme. Alors, Philippe Alston explique dans cet extrait qu'il est de la responsabilisation des États de garantir l'accès aux droits de l'homme pour tous et plus certainement aux personnes les plus pauvres. Alors, est-ce qu'inversement, on peut dire que la pauvreté est une violation des droits de l'homme ?
Bonsoir, tout d'abord un grand merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter d'une question si fondamentale. Alors oui, effectivement, tout d'abord la pauvreté est une atteinte très grave à la dignité humaine. Et bien sûr, on part de violations des droits de l'homme à partir du moment où la pauvreté est une conséquence directe de politiques gouvernementales ou de l'inaction de gouvernements pour prendre les mesures nécessaires pour effectivement lutter contre la pauvreté. Alors, nous savons tous que les personnes en situation de pauvreté voient leurs droits fondamentaux bafoués tous les jours. Par exemple, on sait très bien que ces personnes n'ont pas accès ou difficilement accès à l'eau potable, à l'assainissement, aux soins de santé, même ont des difficultés à participer à des activités politiques, n'ont pas accès à la justice. Donc autant leurs droits civils et politiques que leurs droits économiques, sociaux et culturels sont bafoués. Alors malheureusement, très souvent la pauvreté n'est pas vue comme une problématique droits de l'homme, mais comme l'a très bien dit Philippe, comme une fatalité ou quelque chose dont les personnes qui vivent en état de pauvreté sont même responsables ou coupables d'une certaine manière. Alors une approche droits de l'homme rejette absolument, fondamentalement cette vision des choses et remet les États au centre du débat, c'est-à-dire leur demande de rendre des comptes sur leurs obligations, sur leurs responsabilités, sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils font ou omettent de faire afin de lutter contre la pauvreté.
Alors, un moment important dans justement cette reconnaissance de la pauvreté comme une violation des droits de l'homme, ça a été l'adoption de principes directeurs sur l'extrême pauvreté. Alors, c'est un peu compliqué ce terme, principe directeur, etc., mais qu'est-ce que ça change finalement ? Pourquoi c'est important ?
Eh bien, disons que c'est un document très important parce que c'est un outil très pratique qui est en fait basé sur les normes et les règles existantes en matière de droits de l'homme. Il ne s'agit pas de nouveaux droits, mais simplement un document qui est très précis sur les orientations spécifiques que doivent adopter les décideurs, en fait, lorsqu'ils développent des politiques, surtout en matière de lutte contre la pauvreté, pour être sûr que les droits des personnes en situation de pauvreté soient respectés, soient défendus, et que les obstacles auxquels elles font face soient aussi pris en compte, en fait. Voilà.
Monsieur l'ambassadeur, je me retourne vers vous. La France a joué un rôle très important dans l'adoption de ces principes directeurs et dans leur rédaction, tout d'abord. Alors, pourquoi est-ce que la France a joué un rôle aussi important dans ce processus ?
Je crois parce que c'est d'abord la vocation de la France, qui s'est toujours voulu le pays des droits de l'homme. Nous avons une longue tradition d'attachement aux droits civils et politiques, la liberté d'expression, de manifestation, d'association depuis 2 siècles. Tout cela, ça caractérise la France, mais on oublie parfois aussi que nous sommes de longue date des partisans des droits économiques, des droits sociaux, des droits culturels, notamment depuis la Libération. Depuis 1945, ces droits sont inscrits aussi dans la Constitution de la France. Et lorsqu'on se pose la question qui sont ceux qui ont le moins accès à leurs droits, qui sont ceux qui ne peuvent pas exercer leurs droits, qui est-ce qui voit leurs droits violés, leur liberté méprisée, ce sont les plus pauvres. Et c'est donc les plus pauvres qu'il faut protéger en priorité. C'est vrai que la réalisation, la lutte contre la pauvreté et la réalisation de ces droits sociaux, économiques, culturels, elle est progressive, comme vous le savez. Mais pour nous, elle est absolument indissociable des droits civils et politiques. Si vous n'avez pas accès à l'éducation, vous ne pourrez même pas connaître vos droits. Comment est-ce que vous pourrez alors les exercer ? C'est pas possible. Si vous êtes exclu, vous ne pourrez pas les exercer convenablement. Et c'est au nom de cette première conviction que nous avons plaidé en 2008, plaidé avec succès, pour la création du mandat de rapporteur spécial. Nous venons d'écouter M. Aston, un rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Et nous avons réussi, grâce à l'appui d'un certain nombre de pays, et particulièrement d'un petit groupe de pays que nous avons réussi à grouper dans ce qu'on appelle un groupe d'amis. Ça se fait beaucoup ici à Genève et à New York d'avoir des groupes d'amis, vous savez. Et ces pays, je crois qu'il faut les citer tous parce que tous ont joué un rôle important. Le Chili, le Pérou, la Belgique, le Maroc, la Roumanie, le Sénégal et l'Albanie. Eh bien, grâce à eux, on a fait un premier pas. Mais il ne suffit pas d'énoncer des règles abstraites. Tous ceux qui travaillent contre la pauvreté et qui ont des projets concrets le savent. Hein, vous tous, vous le savez. Alors, des principes pratiques sont nécessaires. Et c'est l'objet de ces principes directeurs dont la nécessité apparaissait déjà en germe depuis 2006, mais qui ont été adoptés avec notre plein soutien en 2012. Et on est fiers d'avoir été à l'origine de ça. C'est un véritable guide pour nous à l'usage des décideurs publics. Nous en sommes très fiers. Et la deuxième raison, c'est que nous voulons dépasser l'opposition entre droits de l'homme et développement. Une opposition qu'on entend ici assez souvent à Genève. Certains États jugent qu'au fond, ce qui compte pour les plus pauvres, c'est d'abord la richesse, le développement économique. Par conséquent, il faut se soucier de commerce, d'investissement, d'assistance, de coopération, mais les droits de l'homme, la liberté d'expression, la lutte contre l'extrême pauvreté, tout cela est un peu secondaire à leurs yeux et ne vient ensuite, comme la cerise sur le gâteau. Mais c'est un discours dangereux et inexact, parce que le gâteau, il n'est pas le même pour tous. On le sait, au moins depuis les travaux d'Amartya Sen. L'enrichissement même rapide d'un pays creuse les inégalités, souvent. Il ne suffit pas à éliminer la grande pauvreté. Les choix politiques d'un gouvernement, et notamment la priorité qu'il accorde aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance, à l'état de droit, compte beaucoup, compte tout autant. Pour prendre un exemple bien établi qui a été commenté par beaucoup de chercheurs, combien de famines, combien de crises humanitaires, combien de grandes pauvretés résultent de conflits, de guerres, d'oppressions, hein ? Le silence de la presse, l'absence de liberté d'expression, le consentement à l'inégalité aident à perpétuer l'extrême pauvreté, surtout quand on veut la cacher, ce qui n'est pas malheureusement si rare. Inversement, il n'est pas possible, il n'est pas crédible de parler de droits de l'homme sans jamais parler de pauvreté, d'éducation, de protection sociale, et c'est pour ça que nous nous sommes engagés et que nous continuerons à le faire pour cette lutte.
D'accord, je me tourne maintenant vers Janet Nelson. Vous êtes vice-présidente du mouvement ATD Quart-Monde. L'adoption de ces principes directeurs a été une victoire pour votre mouvement. En quoi sont-ils si importants pour vous qui travaillez au plus près des personnes en situation de pauvreté ?
Pour nous, il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles sont très importantes. Bon, une, il y a déjà plusieurs personnes qui ont pris la parole avant moi, qui ont parlé de la honte, du sentiment d'exclusion sociale que ressentent les personnes qui vivent en extrême pauvreté. Donc, pour nous, une des premières raisons pour lesquelles c'est très important, c'est parce que ça change le regard des personnes vis-à-vis d'eux-mêmes. Au lieu d'avoir le sentiment que c'est leur faute, hein, et que c'est tout à fait inévitable qu'il y ait de la pauvreté, tout à coup, il y a ce sentiment, mais non, ce n'est pas inévitable, ce n'est pas votre faute, ça veut dire qu'il y a des violations des droits de l'homme et que vous pouvez lutter pour que vos droits soient respectés. Donc, ça donne une dignité. Ça rappelle aux gens qu'ils ont une dignité, qu'ils ont des droits comme tous les autres. Et ça change tout à fait leur regard vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leur rôle dans la société. Une deuxième raison, c'est parce que, comme l'ambassadeur Ivasso a déjà dit, avant, on pensait que bon, le développement économique allait automatiquement éliminer la pauvreté. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, mon pays, qui sont les États-Unis, qui est soi-disant le pays le plus riche du monde, hein, comme M. Alston a remarqué quand il a visité les États-Unis l'année passée, il n'avait jamais vu autant de misère dans d'autres aux États-Unis par rapport à d'autres pays développés. Donc, il était vraiment choqué de voir le niveau de misère. Et ça, c'est dans le pays le plus riche. Donc, le développement économique ne va pas automatiquement éradiquer la misère. Et ça, c'est une... ça nous appelle à revoir nos systèmes socio-économiques. Et puis, la troisième raison, c'est parce que les principes directeurs reconnaissent l'importance, la participation des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté pour développer des meilleures stratégies pour éliminer la grande pauvreté. Parce que c'est eux qui sont les experts sur l'extrême pauvreté. C'est eux qui savent le mieux pourquoi ils sont dans l'extrême pauvreté, qu'est-ce qui les maintient dans l'extrême pauvreté. Et donc, c'est là où si on ne les inclut pas dans le développement des stratégies, on va être à côté de la plaque parce qu'on n'aura pas tenu compte de la réalité de ce qu'eux, ils vivent. Et donc, voilà, c'est trois des raisons pour lesquelles c'était important pour nous.
Et est-ce que vous avez observé des changements depuis l'adoption de ces principes directeurs ? Est-ce que vous qui travaillez sur le terrain, est-ce que les pays ont déjà adopté d'autres processus ou d'autres façons d'appréhender la pauvreté ?
Ben, vous savez, l'idée que l'extrême pauvreté est une conséquence de violation des droits et une cause d'autres violations, c'est quand même une idée révolutionnaire, hein, et qui a été adoptée que depuis 2012. Donc, comme toute idée révolutionnaire, ça va prendre du temps. C'est comme, par exemple, l'abolition de l'esclavage ou l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, on y travaille déjà depuis pas mal de temps. Donc, ça va prendre du temps. Mais, quand même, on voit un certain impact. Par exemple, il y a des ONG qui, avant, avaient une approche de charité vis-à-vis des personnes qui vivaient dans l'extrême pauvreté, qui tout à coup se disent, ben dis donc, il faut qu'on revoie notre approche, il faut qu'on change, hein, et qu'on reformule donc notre approche. Il y a deux autres ONG qui étaient déjà dans un combat contre l'extrême pauvreté, contre la pauvreté, qui se sont rendus compte qu'en fait, ils n'atteignent pas les plus pauvres, parce qu'ils souffrent d'une honte qui les empêche de venir vers eux. Donc, il fallait qu'ils fassent des efforts pour aller vers les gens. Et puis, troisièmement, il y a des pays, par exemple la France, où l'Assemblée générale, en 2014, dans leur loi pour le développement et la solidarité internationale, ils ont cité les principes directeurs contre l'extrême pauvreté comme étant un des textes sur lesquels les politiques de développement de la France devraient se baser. Il y a aussi l'équipe, par exemple, de l'ONU en Haïti, qui, quand ils ont développé leur plan pour 2017 à 2021, ils sont basés aussi sur les principes directeurs. Donc, petit à petit, on voit quand même que ça va faire son petit bout de chemin, mais bien sûr, ça va prendre du temps.
Monsieur l'ambassadeur, on vient de parler de la France et justement le mois passé, le président Emmanuel Macron a lancé son plan contre la pauvreté, son plan national. Et à cette occasion, il a déclaré, je cite, « Moi, je ne veux pas qu'on fasse un plan pour que les gens pauvres vivent mieux pauvres. Je veux qu'on leur donne le choix et la possibilité, parce qu'ils le veulent, de ne plus l'être. » Alors cette phrase est un peu alambiquée, mais est-ce que ça signifie effectivement qu'en France, on est dans ce système où on ne veut plus se baser sur la charité pour éradiquer la pauvreté ?
Je crois qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Comme dit le proverbe, la sagesse des nations à travers le monde, c'est bien de donner un poisson à celui qui a faim, mais c'est bien mieux évidemment de lui apprendre à pêcher. C'est du bon sens. Hein, le père Wresinski, puisqu'on est à TD Quart Monde, alors il faut quand même lui rendre hommage, disait quelque chose d'à peu près similaire il y a déjà 30 ans. Il disait le but, c'est que tous aient un métier en main et que celui qui sait apprenne à celui qui ne sait pas. Et je crois que le président Macron, il se situe dans cet esprit. Il a une conviction profonde. La pauvreté, tout particulièrement la pauvreté extrême, n'est pas une fatalité. Il y a des causes profondes qui tiennent à des épisodes précis dans la vie, dans la société. Il faut les traiter avec lucidité, avec réflexion. Il y a des urgences, mais il faut avoir une approche constructive, positive, qui regarde vers l'avenir et qui vise à aider les gens à sortir de la pauvreté. Alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport au plan français ? Ça veut dire que la petite enfance et l'adolescence sont cruciales. C'est à ce moment-là qu'on apprend à pêcher le plus facilement. D'abord parce qu'il est plus efficace de prévenir que guérir, et d'autre part parce que toutes les études montrent que le destin d'un individu se noue souvent à cet âge, où on est ouvert, vif, curieux, mais aussi particulièrement vulnérable. Et là, je pense à des travaux très clairs de grands spécialistes comme Ekman, Duflo, Banerjee. Et c'est pour ça que le plan contre la pauvreté français contient beaucoup de dispositions nouvelles pour aider à la petite enfance, accompagner les jeunes en matière de formation et d'emploi, instruction obligatoire dès 3 ans, petit déjeuner dans les écoles primaires, accompagnement de tout mineur en cas de décrochage scolaire, accompagnement vers l'emploi des allocateurs de minima sociaux. Et nous savons aussi en France, ça c'est une caractéristique de la France, parce qu'on est un pays qui s'attache à la lutte contre la pauvreté depuis longtemps, que nous avons beaucoup d'aides sociales très complexes. Il faut absolument les simplifier. Les travailleurs sociaux perdent plus de temps à remplir des papiers qu'à s'occuper des pauvres, parfois. Eh bien, on n'a pas des ressources illimitées. L'État français n'est pas plus riche qu'un autre. Il faut tirer le meilleur parti des ressources qu'on a. C'est pour ça qu'on va simplifier les systèmes d'aide autant que possible. Et on va essayer surtout de se battre contre les problèmes de logement dans la rue. Hein, l'abandon dans la rue, dans des logements de fortune, dans des logements précaires, même temporaires, sont traumatisants. Et donc, le plan va prévoir toute une série de mesures énergiques pour éviter la rue aux familles, aux enfants en détresse et résorber nos bidonvilles. Et puis nous encourageons les initiatives locales. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de Lyon qui va nous parler d'une des plus remarquables qui soit, qui est pour nous exemplaire. Donc on encourage beaucoup aussi l'action de proximité. Parce que le problème, c'est qu'avec Internet, on est très très concerné par la pauvreté au cœur de l'Afrique et puis on oublie de regarder à Genève ou ailleurs à nos portes. Voilà.
Monsieur l'ambassadeur, un grand merci. Mais justement, dans la deuxième table ronde, on reviendra sur ces projets qui mettent les personnes en situation de pauvreté ou les acteurs au cœur des projets et qui s'éloignent justement de cette approche paternaliste de la pauvreté. Un grand merci aussi à Madame Natacha Foucard, à Janet Nelson d'avoir participé à cette table ronde et de nous avoir éclairé sur cette notion de pauvreté comme violation des droits de l'homme. Alors tout de suite, je vous propose une petite pause musicale, le temps d'accueillir nos nouveaux invités. Avec Pecho et Mandy, on se retrouve dans quelques minutes.